Ukraine. Récession, déliquescence de la société et attaque contre la classe ouvrière. Ouvrez les guillemets. Aucun des hommes politiques ukrainiens qui se préparent à être candidats à la présidence ne prend la mesure de l'anarchie et ne s'apprête à l'arrêter. Fermez les guillemets. A affirmé Yulia Tymoshenko en annonçant sa candidature à l'élection anticipée du 25 mai qui doit remplacer le président Yanukovych, destitué par l'Assemblée nationale, la Rada, sous la pression du mouvement protestataire dit du Maïdan. Oligarques, on reprend les mêmes, ou presque. Lié familialement au clan de la bureaucratie de Dniepropetrovsk, très puissant du temps de l'Ukraine soviétique, Brejnev en étant lui-même issu, Tymoshenko est un pur produit de la conversion politico-affairiste de la haute bureaucratie soviétique. Elle est en effet devenue la femme la plus riche d'Ukraine en contrôlant, comme membre de plusieurs gouvernements, des trafics de grande échelle autour de la commercialisation du gaz russe. Même si médias et dirigeants occidentaux s'évertuent à la présenter comme une martyre de la démocratie en Ukraine, elle a fait deux fois de la prison pour des raisons politiques autant que pour sa rapacité en affaires, elle n'a pas osé accuser ses rivaux du gouvernement actuel d'avoir recyclé la plupart des oligarques, ces voleurs et pillards de l'économie dont la population avait cru pouvoir se débarrasser en soutenant l'opposition à Yanukovych. Quelques-uns de ces affairistes oni, les plus liés à la « famille », entre guillemets, le clan rapproché du président déchu, ont pris la fuite ou se sont fait arrêter. Mais le plus grand nombre, y compris ceux qui ont fait main basse sur l'industrie étatisée de l'Est de l'Ukraine sous la protection de dirigeants ukrainiens, Yanukovych n'étant que le dernier en date, ont été accueillis à bras ouverts par les nouvelles autorités. Quelques jours après la chute de Yanukovych, Kolomoïski, qui s'est enrichi dans le commerce du pétrole, devenant ainsi la troisième fortune du pays, a été nommé gouverneur de la région de Dniepropetrovsk. Son compère Taruta a été gratifié du même poste à Donetsk, au cœur de la région où il possède l'Union industrielle du Donbass. Sa nomination a reçu l'appui de Rinat Akhmetov. Cet individu, l'Ukrainien le plus riche, roi du Donbass entre guillemets, et ancien proche de Yanukovych, s'est lui aussi rallié au gouvernement dit intérimaire, car il gère les affaires jusqu'à l'élection présidentielle. Un gouvernement qui grouille d'oligarques de moindre importance et de fondés de pouvoir de tel ou tel clan oligarchique. Hormis l'étiquetage des hommes au pouvoir, ils se disent maintenant pro-européens ou s'affichent nationalistes, parfois avec d'autant plus de véhémence que récemment encore on en croisait certains dans les allées du parti de Yanukovych, bien peu de choses en fait ont changé. En tout cas, les milieux dirigeants et affairistes s'interpénètrent toujours autant. Comme en maintes occasions depuis fin 1991 que l'Ukraine s'est constituée en État indépendant sur les ruines de l'URSS, on assiste à une redistribution des cartes et surtout des sources d'enrichissement entre les hommes et les femmes qui se disputent le pouvoir. Les sondages donnent ainsi comme favori du scrutin présidentiel Petro Porochenko, un milliardaire. Porochenko, qui possède le groupe de confiserie géant Rosen et fit partie du gouvernement Tymoshenko après la prétendue « révolution orange » entre guillemets de 2004, vient de recevoir le soutien d'un politicien en vue, l'ex-champion de boxe et businessman Vitali Klitschko, devenu la coqueluche du Maïdan. Même arbitré par une star du ring, on peut douter que le match « roi du chocolat » entre guillemets contre « princesse du gaz » entre guillemets ait de quoi faire rêver ceux qui espéraient plus de démocratie et la fin de la corruption au sommet. Alors, Tymoshenko se met en scène comme celle qui veut mettre un terme au délitement de l'État et au délabrement de la société. Un État en décomposition. Les événements qui ont secoué l'Ukraine depuis l'automne, et surtout depuis les affrontements meurtriers de Kiev fin février, ont eu pour effet de déstabiliser l'appareil étatique, en profondeur, et pas seulement au niveau gouvernemental, avec pour résultat une absence d'ordre qui se généralise dans une grande partie du pays, faute d'institutions reconnues qui puissent l'assurer. Le cœur même de l'appareil d'État, ses forces de répression, est atteint et cela se voit. Dans l'ouest du pays, des bandes d'extrême droite se sont emparées de divers locaux administratifs, dont des commissariats, avec les armes qui s'y trouvaient, et la reprise en main de ces bâtiments publics ne se fait pas sans mal. Les affrontements ont fait des morts, des procureurs ont été retrouvés pendus dans la région de Lviv. Quant à l'est de l'Ukraine, les policiers du CRU, dont les chefs avaient servi avec zèle le pouvoir précédent, n'y mettent pas un grand empressement à faire respecter les décisions de Kiev, notamment face aux manifestants pro-russes. Pour rétablir leur pouvoir sur ces régions russophones, les autorités centrales s'y font représenter par des oligarques promus gouverneurs qui tiennent l'économie régionale. Ces derniers apprécient peu toute forme de désordre qui entrave la bonne marche de leurs affaires, et, pour faire respecter leur ordre, ils disposent de milices privées, nombreuses et armées, qui contrôlent leurs mines, leurs combinats sidérurgiques et leurs travailleurs. Mais tout cela n'a guère empêché, jusqu'à maintenant, ceux qui contestaient les autorités kiéviennes de s'emparer des bâtiments publics et de les occuper plus ou moins durablement. Une situation telle que Svoboda, le principal parti d'extrême droite, représenté au gouvernement par 4 ministres, a fait voter par la Rada la création d'une garde nationale. Une force distincte de la police, avec des effectifs qui pourraient atteindre 60 000 hommes, dont les éléments nationalistes devraient constituer l'ossature. Officiellement destinée à faire la chasse à la délinquance, son but réel est de contrer, dans l'Est et le Sud russophone, la mise en cause du pouvoir central par le mouvement fédéraliste que Kiev accuse de séparatisme manipulé par Moscou. Mettant à profit la faiblesse actuelle des autorités centrales, leur indécision et leur manque de soutien dans une partie de la population, ce mouvement tente d'obtenir le plus d'autonomie possible pour ces régions, c'est-à-dire pour ceux qui y exercent le pouvoir et qui y détiennent les entreprises. Et puis, il y a diverses milices que l'on voit sévir en maints endroits, dont celles constituées par des « héros de la révolution », entre guillemets, autoproclamés, en fait des ultranationalistes et des nervis d'extrême droite qui se comportent en bande de racketteurs. Ici, elles extorquent un « impôt révolutionnaire », entre guillemets, à des voyageurs, un phénomène nouveau. Là, à des restaurants, voire à des entreprises un peu plus importantes sous menace de représailles, une activité entre guillemets dont les forces de sécurité avaient jusqu'alors le monopole. La situation de l'armée n'est guère plus brillante. Fin février début mars, 3 chefs d'état-major se sont succédés en quelques jours, l'un d'eux ralliant purement et simplement la Russie. Et de l'aveu même du président de la République par intérim, Tourtchinov, l'armée de ce pays aussi vaste que la France n'aligne que 6 000 hommes en état de combattre, entre guillemets. En tout cas, le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie a eu lieu sans susciter de résistance, hormis celle, verbale, de quelques hauts gradés ukrainiens, tandis qu'une partie des troupes passait avec armes et bagages du côté russe. Accusé d'improvisation dans la gestion de la crise de Crimée, y compris au sein du nouveau pouvoir, le ministre de la Défense remit sa démission à la Rada. Le représentant du président en Crimée, lui, démissionna en geste de protestation contre l'impuissance d'un gouvernement, ouvrez les guillemets, qui ne fait que tenir des réunions, des débats, fermez les guillemets. Mis en cause, le président par intérim présenta lui aussi sa démission au Parlement, qui la refusa. Elle aurait soldé la faillite d'un État en déliquescence. Comme un air de guerre froide. Appareil d'État évanescent, absence d'ordre qu'une autorité soit en mesure de faire respecter, au terme de 4 mois de bouleversement politique, une forme d'anarchie, au sens qu'entend Timoshenko, règne en Ukraine. Hors du pays, on doit constater que ces événements ont, d'un seul coup, modifié le climat international. À en juger par le ton de la presse occidentale, la guerre froide semble refaire surface. Et il n'y a pas que les médias à l'évoquer. Certes, ils déforment les choses, les amplifient, sont perpétuellement en quête du sensationnel qui fait vendre et accroît les recettes de publicité. Mais il y a aussi les pays membres du G8, qui regroupent 8 des pays économiquement les plus puissants, États-Unis, Canada, Japon, Allemagne, Grande-Bretagne, France, Italie, Russie, redevenus le G7, avec l'exclusion temporaire de la Russie, dont les gouvernements accusent cette dernière d'avoir attisé la crise ukrainienne et d'avoir annexé illégalement la Crimée. Comme si, depuis des lustres, les grandes puissances, et d'abord les États impérialistes américains, britanniques ou français, ne s'essuyaient pas les pieds sur le respect du droit international quand celui-ci, qui ne fait que codifier les positions acquises par les plus forts et les compromis que ses rivaux en brigandage doivent périodiquement conclure entre eux, ne s'accordent plus assez avec leurs intérêts. Et puis, depuis quand ce droit international a-t-il quoi que ce soit à voir avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Ce n'est certes pas le souhait de la majorité de la population de Crimée de se séparer de l'Ukraine qui a poussé Poutine à agir. Depuis l'éclatement de l'URSS, elle l'avait fait connaître sans que cela émeuve Moscou, qui préférait utiliser la chose comme un moyen de pression dans ses tractations avec Kiev. Et l'on sait comment, d'Helsine à Poutine, le Kremlin a férocement réprimé la population tchétchène qui avait souhaité devenir indépendante de la Russie lors de la fin de l'URSS. Mais l'air indigné qu'affectent les gouvernements occidentaux face à la Russie serait comique si l'on ne connaissait les crimes contre les peuples qu'eux et leurs prédécesseurs ont couverts ou commis en invoquant leurs prétendus grands principes démocratiques. L'agitation des présidents et ministres occidentaux autour de la crise ukrainienne masque mal le fait qu'en réalité, ils ne font rien. Mais l'annonce de sanctions contre la Russie, l'escalade assumée par un Obama dans l'aggravation des mesures de rétorsion, les déclarations menaçantes de responsables de l'OTAN, le tout relayé, commenté jour après jour par des médias, ont pu amener certains à se demander s'il n'y avait pas là un risque de guerre à notre porte. Nous ne discuterons pas de cette question, tandis que les uns et les autres se livrent à une guerre de communiqués et s'activent sur le devant de la scène. En coulisses, les négociations vont bon train, notamment entre Washington et Moscou. Mais nous voudrions revenir sur l'enchaînement d'événements qui ont conduit à la situation actuelle. Les raisons d'une colère largement partagée. Derrière l'image de propagande élaborée par les médias et chancelleries des pays occidentaux, présentant de façon unilatérale et exclusive les contestataires du Maïdan comme de jeunes pro-européens épris de démocratie, on a vu se profiler une masse de gens fort peu recommandables. Les ultranationalistes de Svoboda, les néo-nazis de Pravi Sektor, qui encadraient les manifestations, occupaient des bâtiments officiels au centre de Kiev et qui, affrontant les forces de sécurité, ont renforcé leur influence à la mesure de la couardise de l'opposition parlementaire face au pouvoir de Yanukovych. Sur cette grande place de Kiev, vers laquelle convergeaient toutes les caméras du monde, on a aussi vu accourir toute une brochette de dignitaires américains et ouest-européens qui, tel Fabius, ne manquaient pas une occasion de prendre la pause pour les chaînes de télévision entre deux conciliabules avec les leaders de l'opposition. Cependant, derrière la scène d'une agitation en partie factice, il y avait un mécontentement diffus mais large contre un régime pourri et corrompu. Et alors qu'augmentait le nombre des victimes de sa police anti-émeute, cette contestation populaire allait enfler, y compris dans l'Est industriel et russophone présenté comme le fief de Yanukovych. Ce rejet de la population, tout le monde a pu le toucher du doigt, ici, en voyant à la télévision ces gens qui, venus visiter la datcha du président déchu, laissaient éclater leur indignation devant un tel étalage de luxe, avec de l'or jusque dans les toilettes. Surtout, s'agissant des moins jeunes, donc de ceux qui avaient été éduqués du temps de l'Union soviétique, sous le choc perçait le dégoût pour l'enrichissement spectaculaire, rapide de Yanukovych et de ses pareils. Car ces parvenus des affaires et du pouvoir doivent leur fortune au pillage de biens et de ressources qui, il y a 25 ans, appartenaient encore à l'État, dans ce pays où n'existait pas de propriété privée des moyens de production, où l'exploitation capitaliste n'était pas la source consacrée et admise par la conscience collective de la richesse. Ce que cette situation a d'original, et qui dénote une différence de nature de classe, on peut le mesurer au regard des réactions qu'avaient suscitées ici, voici quelques années, les révélations du majordome de Liliane Bettencourt sur l'île que la femme la plus riche de France, propriétaire de L'Oréal, s'était offerte dans l'océan Indien. Ce qui avait choqué tenait plus à la méthode employée, fort douteuse, qu'à l'achat lui-même. Contrastant avec cela, même les Ukrainiens peu politisés ont paru choqués parce qu'ils entrevoyaient de la fortune de leur bandit d'ex-président. De ce pillage par la couche dirigeante, toutes les masses populaires d'Ukraine, à l'est comme à l'ouest, russophones ou pas, en ont été les victimes. Car ces fortunes colossales, amassées en quelques années, on parle en milliards de dollars s'agissant de la fortune personnelle de Yanukovych et de son entourage, ne sont pas tombées du ciel. Pour les amasser, il fallait qu'il y ait de l'argent à voler et des protections en haut lieu pour ce faire. Et pendant qu'à Kiev, des publicités s'étalent sur plusieurs étages d'immeubles entiers du centre-ville qui vantent le dernier modèle de Mercedes ou des marques de montres de luxe, plus de 20% de la population, selon les statistiques officielles, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Dans la capitale, il y a une petite bourgeoisie nombreuse qui prospère plus ou moins à l'ombre des nantis de l'oligarchie et de l'appareil d'État. Mais elle sait sa position fragile, menacée par le fait que le pays, déjà en récession, se trouve au bord de la faillite. Quant aux travailleurs de Kiev, essentiellement dans les transports et les services, ceux dont l'emploi peut passer pour stable gagnent difficilement l'équivalent de 600 ou 700 euros. Mais à côté d'eux, des centaines de milliers d'autres n'ont que de petits boulots précaires, parfois sans même un salaire minimum assuré. À l'ouest du pays, le taux de chômage déclaré dépasse 30% dans certaines régions. Saisonnières ou permanentes, l'immigration de travail y est importante vers la Pologne. S'agissant des migrants ukrainiens partis chercher du travail en Russie, le phénomène est plus massif encore. Plus de 2 millions de travailleurs ukrainiens, soit un actif sur 10, toutes régions confondues, travaillent chez le grand voisin du Nord, notamment sur des chantiers. Car dans l'Est aussi, chômage et précarité font des ravages. Dans le Donbass, où de nombreuses mines ont fermé, bien des sans-emploi n'ont rien trouvé d'autre pour survivre que de creuser dans des kopanki, des mines exploitées sans autorisation, où la sécurité est encore plus inexistante que dans les autres, d'où de fréquents accidents mortels. Ces mines sauvages, comme il en existe un peu partout dans l'Est de l'Europe, assurent une part notable de la production de charbon ukrainienne, à des coûts moindres que les mines étatisées devenues propriété des oligarques. Ce charbon produit à vil prix, mais au prix de la vie des mineurs, ces mêmes oligarques l'écoulent sur les marchés européens au prix « officiel » entre guillemets, en empochant donc d'énormes bénéfices. Alors il faut avoir l'esprit, socialement, bien borné, tel celui de certains journalistes pour découvrir, entre guillemets, plusieurs mois après le début de la contestation, que même dans l'Est russophone, bien des petites gens, des travailleurs, ne voulaient plus de Yanukovitch et de sa clique. Comme si avoir une langue ou une culture commune, russe en l'occurrence, effacer les antagonismes sociaux. Contestation dans la rue, mais derrière quelle politique ? Depuis qu'avait débuté le mouvement dénonçant dans la rue la décision de Yanukovitch de ne pas signer l'accord d'association qu'il négociait avec l'Union européenne, de larges couches de la population avaient été gagnées à l'idée qu'il fallait et qu'on pouvait en finir avec ce pouvoir. Le phénomène avait un caractère certes moins visible que les manifestations du centre de Kiev, mais socialement bien plus large. Et si la sympathie croissante du grand nombre pour les opposants à Yanukovitch est bien souvent restée passive, elle n'en était pas moins présente et révélatrice d'une effervescence contestataire dans les profondeurs de la société. Cependant, ceux qui ont très rapidement réussi à chevaucher la contestation, à lui donner une expression, une image ainsi qu'une direction politique, ne provenaient pas des classes laborieuses ukrainiennes ni ne se réclamaient d'elles. D'une part, il s'agissait de représentants de clans dirigeants écartés du pouvoir politique, et cela de façon plus ou moins violente, tel Timochenko, emprisonné après avoir perdu l'élection présidentielle de 2010. Mais rapidement, les politiciens qui dirigeaient le gros de l'opposition parlementaire, de droite et pro-occidentale, ont été dépassés par plus radicaux qu'eux dans l'opposition au pouvoir en place par des gens appartenant à l'extrême droite. D'ailleurs, même au sein de cette dernière, les gens du groupe néo-nazi Pravi Sector ont, au plus fort des événements, réussi à déborder leurs rivaux de Svoboda, un parti ultranationaliste ayant quelques députés. La droite parlementaire et ses mentors occidentaux ayant associé Svoboda au pourparlers avec un Yanukovitch au pouvoir vacillant, et Svoboda y ayant fait la preuve de « responsabilité », entre guillemets, Pravi Sector en profita pour dénoncer l'attitude « molle » entre guillemets de Svoboda, ce qui lui permit de gagner un surcroît d'influence, au moins auprès des participants aux manifestations du Maïdan. La présence de barricades et d'affrontements avec la police ne permet nullement de préjuger de la nature sociale d'un mouvement, car la contestation active du pouvoir par des masses plus ou moins nombreuses ne débouche pas forcément sur la conscience, en tout cas pas sur une conscience de classe qui se situe sur le terrain des intérêts et dans le camp des exploités et des opprimés. Ceux qui avaient le plus à souffrir du régime en place, parce qu'ils appartiennent aux classes laborieuses, avaient des exigences à faire valoir sur un terrain social et politique. Mais ces exigences objectives, il n'y avait personne pour aider les masses à les formuler, à les défendre dans le cours des événements face aux autres forces sociales et politiques. Les syndicats, là où ils existent, ils sont et restent inféodés au pouvoir. Des partis qui se revendiquent de la classe ouvrière, même vaguement, il n'y en a aucun. Et le PCU, le parti prétendu communiste, héritier du parti unique de l'URSS de Staline à Gorbatchev, ne fait pas exception. Il a soutenu Yanukovitch. Quant à ses dirigeants et élus, qui ne se cachent même pas d'être dans les affaires, ils participent comme leur pareil du système politico-mafieux en place. L'insurrection du peuple ouvrier de Paris, qui avait renversé la royauté en février 1848, avait d'abord vu se porter à sa tête un antisocialiste viscéral, le poète Lamartine. Le Lamartine, entre guillemets, ukrainien, faute d'avoir les traits de la blonde Timochenko, plus dévalorisée en Ukraine que dans les colonnes des journaux occidentaux, a pris un visage bandériste. Celui des nationalistes antisémites, anti-russes autant qu'anti-ouvriers, nostalgique de Stefan Bandera, qui voulait fonder un État ukrainien sous l'égide de la grande Allemagne d'Hitler, qui célèbre chaque année la création de la division SS ukrainienne durant la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas le fait de consacrer, tel le quotidien Libération du 18 mars, deux pleines pages au fascisme ukrainien épouvantail du Maïdan, entre guillemets, pour minimiser, sinon nier cette réalité qui change quoi que ce soit. Est-ce que Pravi Sektor est, aussitôt Yakunovitch parti, fait connaître sa volonté de mettre sous tutelle les syndicats ukrainiens, n'est certainement pas pour épouvanter les dirigeants occidentaux. Ces syndicats étaient déjà placés sous l'aile du pouvoir précédent, mais deux précautions valent mieux qu'une quand un nouveau pouvoir annonce un plan massif d'attaque contre le niveau de vie des classes laborieuses. Une Europe, entre guillemets, divisée face aux États-Unis. Les pays impérialistes, États-Unis en tête, avaient, avant même la chute du précédent régime, résolu d'associer Svoboda au futur gouvernement qu'ils soutenaient par avance de bien des façons. Car les puissances impérialistes sont impliquées depuis longtemps dans cette zone de l'Europe qui, il y a un quart de siècle encore, constituait l'URSS. Dès que l'URSS a commencé à se défaire, les États-Unis se sont efforcés d'attirer dans leur orbite les pays de l'ancien « bloc de l'Est », entre guillemets, les ex-démocraties populaires, puis les ex-républiques soviétiques. Pour sa part, l'Union européenne a assez vite réussi à intégrer les petits pays baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie, la Pologne, la Hongrie, l'ex-Tchécoslovaquie, plus tardivement la Roumanie et la Bulgarie. Mais la mal nommée Union européenne, qui regroupe 28 pays à ce jour, est avant tout la somme de 28 politiques différentes, parfois divergentes, voire antagonistes. La crise autour de la Crimée l'a illustré jusqu'à la caricature. Tandis que la Pologne, dont une grande partie se trouvait sous la dépendance de l'Empire tsariste avant 1918, et qui s'est constituée comme État moderne en opposition permanente avec la Russie, soviétique ou pas, pressait Bruxelles de prendre des mesures autres que symboliques à l'encontre du Kremlin. France, Allemagne et Grande-Bretagne n'ont cessé de traîner les pieds. Et leurs gouvernements avaient chacun ses propres raisons pour cela. À ceux qui reprochaient à Paris de s'apprêter à livrer à la Russie deux navires de guerre de haute technologie, selon les critères de l'OTAN, alors qu'OTAN et puissance occidentale versaient des larmes de crocodile sur quelques vieux navires ukrainiens capturés par la marine russe en Crimée, Hollande et Fabius rétorquèrent qu'ils pouvaient envisager de bloquer cette commande, mais à condition que Londres gèle les avoirs des oligarques russes que gère la City. On estime que, en l'espace de 3 décennies, celle-ci a vu arriver près de 800 milliards de dollars en provenance de la seule Russie. À condition aussi que Berlin dénonce ses contrats de fourniture de gaz avec la Russie, dont l'Allemagne dépend pour la moitié de son approvisionnement énergétique. Quand les grands groupes industriels, commerciaux, bancaires, agroalimentaires et une myriade de plus petites entreprises des pays d'Europe de l'Ouest font de fructueuses affaires avec la Russie, lequel d'entre eux aurait eu envie de voir punir Poutine, entre guillemets, ce qui aurait porté atteinte à leurs propres affaires. En pareilles circonstances, les États-Unis peuvent d'autant plus s'affirmer comme le véritable chef d'orchestre de cette mini-guerre froide qu'elle se double, à l'intérieur du camp occidental, d'un affrontement sourd entre grandes puissances alliées autant que rivales. En outre, à peine les nouvelles autorités de Kiev avaient-elles signé le volet politique du traité d'association avec l'Union européenne, que Hollande s'est précipité pour redire qu'il n'était pas question d'intégrer l'Ukraine à l'Europe, entre guillemets, rappelant ainsi que l'Union européenne n'a rien à offrir au reste du continent. Alors il ne faut guère s'étonner que des pays limitrophes de la Russie, pourtant membres de cette Union européenne, préfèrent tourner les yeux vers les États-Unis qui, même géographiquement plus éloignés, leur apparaissent comme des protecteurs plus crédibles et plus fiables. Obama ne s'est pas fait faute d'enfoncer le clou fin mars lors de sa tournée promotionnelle en Europe. Il a souligné que, si certains États pouvaient se sentir menacés par les événements de Crimée, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, cette colossale alliance militaire formée autour des États-Unis et dirigée hier contre l'URSS, aujourd'hui contre la Russie, était toujours là, et même, qu'elle allait répondre à la tension actuelle, comme si elle avait besoin de prétexte, par un renforcement de ses positions en Europe de l'Est et qu'elle s'adossait à la seule puissance impérialiste d'envergure mondiale, les États-Unis d'Amérique. La propagande et ce à quoi elle sert. Depuis une vingtaine d'années, et surtout depuis la révolution orange, entre guillemets, voici 10 ans, l'État ukrainien paraissait tenir une position médiane entre l'Occident impérialiste et la Russie, reflet de leur lutte d'influence dans la zone large qui avait été celle de l'Union soviétique. Les événements de ces derniers mois ont contribué à rompre cet équilibre que tenaient les dirigeants ukrainiens en une sorte de jeu de bascule permanent, ou plutôt à provoquer un brusque basculement de l'Ukraine vers le camp occidental. Alors bien sûr, une fois que les États impérialistes y eurent plus que contribué, que leur poulain politique eut remplacé Yanukovych, que l'appareil étatique ukrainien en fut ébranlé, que les habitants des régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine purent se sentir menacés par un nouveau pouvoir qui faisait la part belle aux nationalistes anti-russes, et qui, à peine installé, décidait d'abroger le statut des langues régionales, une mesure dirigée contre des millions de locuteurs russes en Ukraine, Poutine en a profité. Et il a agi d'une façon qui, si elle a motivé les hauts cris des milieux dirigeants occidentaux, paraît légitime, raisonnable, aux yeux de la population russe, comme de celle de la Crimée, en finalisant le rattachement à la Russie de cette péninsule, peuplée de plus de 2 millions d'habitants, russes pour la plupart. À en croire les Obama, Hollande, Merkel, Cameron et autres, il serait illégal, contraire au droit, d'avoir organisé un référendum en Crimée. Mais les mêmes autorités britanniques qui vilipendent ce référendum sécessionniste, entre guillemets, ne s'apprêtent-elles pas à accepter chez elles un autre référendum, cette fois pour ou contre l'indépendance de l'Écosse? Et puis, en cette année du centenaire du déclenchement du premier conflit mondial, quand et où les grands États dits démocratiques ont-ils demandé leur avis au peuple en 1918, lorsqu'ils ont découpé dans leur chair, en dépeçant les empires centraux pour créer une ribambelle de nouveaux États, des États souvent trop faibles économiquement pour avoir une existence indépendante des grandes puissances, et, à peine nés, en rivalité guerrière avec leurs voisins, auxquels les grands d'alors avaient attribué telle ou telle fraction de leur peuple, désormais écartelée entre plusieurs États. Et que dire de l'Alsace et de la Lorraine occupées par l'armée française dès novembre 1918, que l'État français reprit sans autre forme de procès à l'Allemagne qui avait agi de même un demi-siècle auparavant. Hypocrisie que tout cela, en particulier ce droit international, entre guillemets, derrière lequel, du Kosovo à la Palestine, les grandes puissances se cachent, elles et leurs intérêts. Dans le cas de la Crimée, elles l'ont fait sur un fond de guerre froide de plus en plus affirmé. Tous les jours, on apprenait, entre guillemets, que la Russie massait des forces considérables aux frontières de l'Ukraine, qu'elles avaient déjà commencé à s'emparer de villages, de sources sûres, entre guillemets, on nous persuadait qu'elles allaient fondre sur la Transnistrie, une république indépendante russophone qui s'est constituée dans une bande de territoire moldave le long de la frontière occidentale de l'Ukraine. Et peu importait que, pour cela, il eût fallu que les troupes russes traversent au pas de charge toute l'Ukraine sur près de 1500 kilomètres. Mais qui serait allé consulter une carte? L'important, c'était de maintenir la pression sur l'opinion publique. Certes, on n'en est pas à un conflit ouvert, ni même en juillet 1914, quand, de Berlin à Paris, Londres, Vienne et Saint-Pétersbourg, la propagande des gouvernants avait systématiquement suscité un climat d'union sacrée afin d'anesthésier les classes laborieuses, avant de les envoyer tuer et se faire tuer pour la défense des intérêts de leurs possédants. Mais constatons avec quelle rapidité, quel mensonge et quel cynisme dirigeants et médias ont fait monter la pression, ressusciter, sinon un ennemi héréditaire, entre guillemets, du moins l'image du « méchant », entre guillemets, russe, en l'occurrence, et créer un climat de préparation à un conflit à propos de la Crimée. Ces dernières semaines, on a eu un aperçu de la façon dont, un siècle après la Première Guerre mondiale que nous venons d'évoquer, les gouvernants européens, qui n'ont jamais perdu la main en ce domaine, savent remettre en route la machine à décerveler l'opinion avec, pour les épauler, des médias au garde-à-vous. Diviser pour régner. Dans tout cela, on peut se demander où sont les intérêts de la classe ouvrière en Ukraine. Lorsque les événements ébranlèrent le régime de Yanukovych, on pouvait se poser cette question. Le bouleversement de la situation et la large mise en cause du pouvoir ne vont-elles pas permettre à la classe ouvrière d'apparaître, de se manifester en tant que telle? Cela ne s'est pas produit et le cours des événements ne pousse pas en ce sens. Les différences nationales, linguistiques, culturelles, qui sont un fait, ont été exacerbées par les camps en présence. Ils les ont transformées en opposition afin de diviser pour régner, sinon sur toute l'Ukraine, en tout cas sur la partie du territoire qu'ils arriveraient à contrôler. Le premier réflexe des nationalistes ukrainiens a été de désigner les russophones comme véhiculant une langue étrangère, entre guillemets, aux visées impériales. Dans le camp opposé, celui des nationalistes grands russes, on ne s'est pas privé d'assimiler tout ce qui émanait du nouveau pouvoir ukrainien comme s'apparentant aux nazis. Il n'était que de voir les immenses affiches apposées en Crimée durant la campagne du référendum. Côte à côte, deux cartes de la péninsule, l'une couverte d'une croix gammée, l'autre du drapeau russe. Entre elles, un seul mot signifiant, c'est l'un ou l'autre. Même si cette propagande grossière ne pouvait pas abuser grand monde, elle enfonçait le clou du nationalisme. Et puis, dans cette Crimée très industrialisée, il y avait le poids des arguments de « bon sens », entre guillemets. Pourquoi rester dans le cadre d'un État ukrainien qui va à volo, où les salaires sont misérables quand ils sont versés, alors qu'en Russie, ils sont en moyenne, pour un même emploi, 2 à 3 fois plus élevés. Le poids aussi des illusions qui ont poussé les travailleurs de Crimée à se tourner vers Poutine. Après tout, même s'il n'est pas un exemple de démocratie, bien sûr, on vit quand même mieux en Russie que dans l'Ukraine de Yanukovych ou même de l'actuel gouvernement. Encore que, si le Kremlin transforme la Crimée en zone économique spéciale comme il en a annoncé l'intention, il est fort probable, et on connaît la chanson, que, au nom du redressement économique nécessaire, de l'attractivité de la région à faire valoir aux investisseurs étrangers, les salaires en Crimée ne sont pas prêts de se voir même alignés sur ceux de la Russie. Ou alors, sur ceux de la plus grande ville russe des environs, Rostov, où on a fermé les principaux combinats industriels, où le chômage est omniprésent et les salaires en conséquence. Mais la Russie peut aussi faire valoir d'autres arguments que la baisse du prix des approvisionnements en gaz auprès des habitants de Crimée, voire d'Ukraine orientale. Qu'on le veuille ou non, pour des pans entiers de la population, elle apparaît liée à tout un passé commun, celui de l'Union soviétique, d'un pays qui fonctionnait sur d'autres bases économiques et sociales. Et puis c'était une entité sans frontières, une différence ressentie d'autant plus que, depuis 2 décennies et quelques, l'ex-URSS et ses populations se retrouvent divisées par des frontières étatiques plus ou moins artificielles. Aujourd'hui, en Ukraine, toutes les questions semblent se poser dans un cadre national imposé. Russes à l'est et au sud, Ukrainiens à l'ouest et dans le centre, Ukrainiens à Kiev, même si les habitants de la capitale sont surtout russophones. Cela charrie tout un ensemble d'oppositions factices, de fossés que l'on creuse entre la majorité et les minorités. Et n'oublions pas qu'à côté des Russes et des russophones, en Ukraine, on en trouve de langues hongroises, bulgares, roumaines, tatares, polonaises, tandis que des démagogues de tout poil attisent les haines recuites du passé, en font surgir de nouvelles, réécrivent l'histoire au gré des besoins, cherchent à imposer une seule langue officielle. Et évidemment, on peut espérer que malgré un tel climat, le pire n'advienne pas, que n'éclate pas un conflit interethnique comme celui qui a mis à feu et à sang la Yougoslavie dans les années 1990. D'autant qu'en Ukraine, pareil affrontement se situerait d'emblée à une toute autre échelle. mais on ne peut exclure une telle perspective. Ne serait-ce qu'à cause de l'existence de courants nationalistes d'extrême droite de tous bords, dont l'agitation, les provocations incessantes, pourraient d'autant plus pousser en ce sens que face à eux et contre eux, il n'y aurait pas d'autre force pour proposer une autre politique, non pas nationaliste, mais de classe, à la population. Pour l'heure, ce sont des groupes nationalistes, voire fascisants, qui donnent le ton, qui cherchent à dresser les populations, les travailleurs les uns contre les autres. Tout cela sur un fond de délitement de l'État et, en bien des endroits, de quasi-disparition des autorités et institutions qui incarnent le pouvoir central. Le mieux que l'on puisse espérer pour l'avenir immédiat, ce serait que la classe ouvrière profite de cet ébranlement des instances du pouvoir pour poser ses propres revendications, ne serait-ce qu'en refusant d'accepter les conditions d'existence et de travail que les dirigeants du pays, de quelque bord qu'ils soient, veulent lui imposer. Car ce qui est d'une actualité immédiate en Ukraine, ce sont les attaques qui vont pleuvoir, et de tous côtés, sur les travailleurs, qu'ils soient en activité, sans emploi ou en retraite. Le gouvernement intérimaire n'en fait pas mystère. Son chef, Yatsenyuk, a même prévenu qu'accepter de devenir ministre équivaut à un suicide politique, tant la politique que mènera le gouvernement sera vomie par la population. Le 28 mars, le même déclara à la Rada que le pays se trouvait au bord de la faillite, avec une inflation qui atteint déjà 14%, un déficit fiscal de 28 milliards de dollars que ne pourront pas combler les quelques milliards d'aides, entre guillemets, promis par l'Union européenne et le FMI, la menace d'une nouvelle chute du PIB comparable à celle de 15% qu'avait provoqué en Ukraine les répercussions de la crise mondiale de 2008. Tout cela pour conclure que, pour sauver le pays d'un effondrement annoncé, le gouvernement se devait d'adopter un « paquet de stabilisation », entre guillemets. Autrement dit, une avalanche de coupes claires dans les dépenses publiques, de suppression de budgets sociaux, de réduction des subventions en tout genre, de renchérissement drastique des tarifs publics, notamment sur l'énergie, de fermeture d'entreprises dites non rentables, le gel des salaires et pensions des fonctionnaires, plus tout un tas d'autres mesures non précisées, mais qui vont toutes dans le même sens, celui d'un appauvrissement brutal des classes populaires. C'est cela, la feuille de route, entre guillemets, que ces parrains occidentaux ont fixée au nouveau pouvoir qui vient. Et avec encore moins d'égards, si la chose était possible, qu'avec la Grèce ou le Portugal, où les dirigeants du monde impérialiste et la finance mondiale ont imposé des plans d'attaque dramatiques contre le niveau de vie des travailleurs. On ne peut exclure que la mise en œuvre d'une telle politique, de telles attaques, fasse réagir la classe ouvrière ukrainienne, qu'elle se manifeste en tant que telle, quelles que soient les particularités culturelles ou linguistiques de ses diverses composantes. Sinon, l'alternative, ce sera une évolution à la Yougoslave, avec une consolidation du pouvoir des oligarques en même temps qu'une aggravation, à la grecque, de la situation de la classe ouvrière. Et les grandes puissances ne lui feront pas de cadeau, pas plus celle de l'Union européenne que les États-Unis, car elles n'ont rien à offrir à l'Ukraine, et en particulier à ses travailleurs. Au contraire, c'est sur leur dos et sur leurs os que le monde impérialiste, ses banquiers, ses industriels, entendent prélever tout l'argent dont ils ont besoin, eux, pour non seulement ne pas faire les frais de la crise actuelle, mais en tirer profit.